Sixième cours sur donner et recevoir. Alors, je vous rappelle que dans ce cours, nous parlons finances. Apparemment, vous êtes très intéressé, c'est bien, c'est une bonne chose. Eh bien, c'est bien d'être intéressé par les finances. Et il faut. C'est un des sujets bibliques importants. Et il ne faut pas jouer les petits chrétiens très humbles, hein, qui donnons comme ça, sans savoir ce que notre main gauche ou notre main droite fait finalement, hein, mais avec toute une mentalité mauvaise derrière. Au contraire, la Bible nous dit clairement qu'on doit être capable de parler de finances sans avoir aucun problème au niveau de notre vie chrétienne personnelle, au niveau de l'Église, etc., et des œuvres de Dieu d'une manière générale. Alors, je vous rappelle que ce qui est important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, Dieu veut que nous prospérions, ça vous avez bien compris. Je vous ai montré qu'il y a différents types de prospérité, c'est-à-dire que le mot prospérité n'implique pas seulement les finances, mais c'est un des aspects que nous étudions. Je vous ai montré aussi qu'il y a deux côtés hein, dans l'enseignement sur les finances, où il y a le côté vraiment où les gens prêchent la pauvreté à outrance et les chrétiens restent dans une extrême pauvreté avec tout un tas de problèmes. Et il y en a d'autres qui abusent sur ce genre d'enseignement et qui finalement font de leur prédication ou de leur ministère une focalisation sur les finances. Personnellement, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand même un enseignant, il a son, comment on dit en anglais, un pet doctrine, c'est-à-dire une doctrine, je veux dire, où il est tout le temps en train de revenir dessus et c'est pratiquement son seul sujet. J'estime que quand on doit enseigner, on doit être capable d'enseigner différents sujets de la parole. C'est sûr qu'on est meilleur dans certains sujets en tant qu'enseignant que dans d'autres sujets. Ça, c'est tout à fait normal. On peut se spécialiser plus ou moins dans certains enseignements de la parole de Dieu parce qu'on a étudié plus dans ce domaine-là ou parce que Dieu veut qu'on insiste plus sur certaines parties de certains enseignements. C'est tout à fait clair. Mais quand on abuse trop sur ce domaine des finances, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré et à la limite, c'est dangereux. D'accord? Donc, il faut toujours que l'enseignement reste équilibré dans ce domaine-là. Alors, je vous rappelle que la définition de la prospérité, d'ailleurs, nous en sommes en plein dedans, c'est dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8, hein, où Paul nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, c'est-à-dire faveur imméritée, afin que possédant en toutes choses et toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, il y a beaucoup de tout ici, et de toujours, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, c'est la définition de la prospérité. Je vous rappelle que prospérer, c'est avancer, avoir assez, être dans le succès, réussir, être dans l'abondance. La pauvreté, c'est le contraire. C'est être dans le manque, être dans l'insuffisance, être destitué. En fait, se retrouver dans la frustration constante parce qu'on manque. On manque de choses. On manque de choses matérielles pour pouvoir vivre correctement. Ce n'est pas normal. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous vivions correctement. Dieu veut que nous prospérions et il y a des clés pour notre prospérité. Nous sommes en train de parler de cela. Je vous rappelle que Dieu s'est révélé comme El Shaddai, hein, à Abraham entre autres, comme Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit, qui voit à l'avance, celui qui satisfait pour El Shaddai. Ensuite, je vous rappelle que Dieu a une mentalité de riche, il n'a pas une mentalité de pauvre, je vous le rappelle. Dans le ciel, tout est extraordinairement riche et opulent et extrêmement luxueux. Hein, c'est clair, la Bible nous le montre clairement. Donc faisons attention de ne pas avoir une mentalité qui va nous créer un choc culturel le jour où nous allons sortir de notre corps. Il est important d'avoir la mentalité du royaume, et c'est ce que Dieu veut, mais là aussi il y a un équilibre. Dieu veut notre prospérité, il veut qu'il y ait même certains chrétiens qui soient extrêmement, extrêmement prospères pour financer le royaume, ça c'est clair, mais il ne veut pas que les finances soient un objet de convoitise. Alors ça, c'est pervertir justement le message de Dieu, ça c'est le monde. Le monde a cette perversion à la recherche constante et unique de l'argent. Et il n'est jamais satisfait, ça c'est la convoitise, c'est-à-dire que en fait le monde cherche une chose, c'est toujours à avoir plus et n'est jamais satisfait avec le plus. D'accord? Et c'est jamais divin, bien sûr, pour le monde. Et il utilise tous les moyens pour arriver à ses fins. Alors, je vous rappelle que Dieu nous montre un certain nombre de choses à propos donc de la dîme, hein, parce qu'on a vu que la dîme, c'est un principe spirituel. C'est un principe divin. À côté de ça, la Bible nous montre que la dîme va être un principe qui va traverser toutes les alliances. Et là, on s'est posé la question, pourquoi la dîme? D'où vient la dîme? On a vu que les racines de la dîme viennent finalement d'un enseignement de Dieu, c'est clair, parce que Abraham, il s'est pas réveillé un jour en disant qu'il allait donner la dîme de tout hein, à Melchisédek. Nous avons vu aussi que Jacob, qui se consacre à Dieu d'un seul coup, la première chose qu'il dit, Seigneur, je vais marcher avec toi, d'accord, je reviens à toi. Il n'y a aucun problème, mais je te donnerai la dîme aussi de tout ce que j'ai. Voilà, d'un seul coup. Et c'est pas des choses qui leur sont tombées, entre guillemets, comme ça, des idées qu'ils ont eues dans leur tête, mais il est clair qu'il y a un principe divin derrière tout cela. Nous voyons qu'il y a des précisions dans la dîme qui sont très claires dans la loi de Moïse. Et les fois d'avant, je vous ai aussi montré qu'il y avait deux raisons pour lesquelles Dieu veut que nous donnions notre dîme, et ça a été dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. C'est clair qu'il y a une responsabilisation et une responsabilité du corps de Christ. Le corps de Christ doit être responsable. Le peuple d'Israël était responsable. Je vous ai montré comment ils devaient financer, comment ils avaient d'abord financé le temple, bien sûr, comment ils finançaient au niveau de la loi les sacrificateurs, les ministres du culte, et puis les choses pour que le peuple puisse aussi avoir un culte, louer, adorer Dieu et pouvoir offrir les sacrifices comme il devait les offrir. Et il y avait des gens, la tribu de Lévi dans l'Ancien Testament, ceux qui sont loin dans le ministère dans le Nouveau Testament et qui travaillent dans le ministère d'aide, hein, nous verrons cela, et pour tous les besoins du culte, pour que l'évangile aussi puisse avancer. C'est l'objectif de Dieu au travers de la dîme. Mais c'est pas le seul objectif. Nous avons vu aussi que la dîme permet un retour, c'est-à-dire une bénédiction, la porte de notre bénédiction pour nous-mêmes, pour que nous puissions prospérer. Et l'avantage avec Dieu, c'est que finalement, Dieu est un bon calculateur, hein, vous ne trouvez pas ? C'est un bon gestionnaire, le Seigneur. Parce qu'il sait très bien que si quelqu'un donne sa dîme, il ouvre les portes de sa prospérité. D'abord, il finance le royaume de Dieu, ok ? En retour, Dieu peut déverser sur lui parce que il y a un retour obligatoire. Cette personne ouvre le robinet de sa prospérité. Donc, cette personne prospère. Et cette personne, si elle est fidèle, si elle est attachée au Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue à donner sa dîme. Mais comme ses revenus ont augmenté, sa dîme aussi augmente. Et ce qui fait que le royaume de Dieu aussi a un bénéfice. Donc, c'est un principe divin. Et je vous rappelle d'une chose, aucune église du monde, je dis bien aucune église du monde, si elle pratique ces principes, ne pourra rester dans la pauvreté. Et ça, il faut bien se le dire. Aucune église sur la terre, si elle pratique les principes divins de la dîme et de la prospérité, ne restera dans la pauvreté. Ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que si sur la terre, le corps de Christ pratique la parole de Dieu, obligatoirement, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. C'est obligatoire. Et ça, c'est un principe qui est divin. Malheureusement, souvent, comme les gens commencent avec peu, ils ont du mal à mettre en action les premiers principes qui vont mettre en route leur prospérité. Et c'est ça souvent qui manque. Et souvent, le diable essaie d'en profiter en leur disant « Mais attention, si tu commences à donner là, qu'est-ce que tu vas faire à la maison ? Tu vas revenir chez toi et il n'y aura rien. Ou il n'y aura pas suffisamment, etc. » Et les gens ont une peur à ce moment-là, manque de foi, ce qui fait qu'ils restent liés par un manque d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est important parce que ce sont des principes. Alors, la dernière fois, nous avions étudié tout le contexte, je vous rappelle, de 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. Je vous ai montré comment, en fait, Paul va exhorter les Corinthiens. 8 et 9, je vous rappelle, parlent de sous, c'est clair. Nous avons vu que Paul avait été soutenu par les églises de Macédoine, entre autres l'église de Philippe. Je vous rappelle aussi les églises de la Macédoine au début du chapitre 8, donc d'une province de la Grèce, qui était vraiment pauvre, qui avait vraiment des difficultés financières, mais elles ont donné. Elles ont donné. Elles ont donné au ministère de Paul, et en particulier l'église de Philippe, mais aussi les églises de Macédoine ont voulu absolument donner pour aider les pauvres de Jérusalem. Et c'était vraiment des donneurs, ces églises-là. Et Paul fait ses remarques plusieurs fois, dans 2 Corinthiens, dans Philippiens, fait ses remarques. C'était pas facile pour vous, mais vous l'avez fait. Vous avez fait même au-delà de vos possibilités. Et puis Paul, dans Philippiens, leur dira, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. » Parce que c'est bien beau de vouloir proclamer des promesses, mais quand il n'y a pas d'obéissance et il n'y a pas de foi, la promesse ne fonctionnera pas. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes. Ils veulent proclamer des promesses. Ça, des chrétiens qui demandent des choses au Seigneur, nous en avons beaucoup. Seigneur, donne-moi une chemise. J'ai pas de chemise. Seigneur, donne-moi une montre. Seigneur, donne-moi ceci. Il y a des gens qui prient encore comme ça, qui sont à un niveau tellement bas de foi et qui sont dans la pauvreté, qui demandent des choses comme ça. Et ça peut être un démarrage, mais d'un autre côté, très souvent, ces personnes-là ne donnent pas une semence. Parce que nous avons lu quelque chose d'important. Au verset 6, je vous rappelle, il est dit, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et là, je vous ai montré une chose, c'est que dans chaque revenu que nous avons, parce que Dieu nous demande de donner les prémices de nos revenus, pas les miettes qui sont tombées de la table de nos revenus, mais les prémices de nos revenus, c'est-à-dire ce que nous recevons. Et je vous ai montré ce que c'est qu'un revenu. Hein, je vous ai dit, faites attention, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que sur un prêt bancaire, je vais donner ma dîme ? Non, parce qu'un prêt, c'est remboursable, me semble-t-il. Mais il y a des gens qui posent des questions comme ça. Donc, des fois, on est obligé de préciser dans certains cours, parce qu'il y a toujours des questions comme ça. J'ai fait un prêt, pasteur, est-ce que je dois donner la dîme sur le prêt ? Non, tu ne donnes pas la dîme sur le prêt. Ce n'est pas un revenu, un prêt. Un prêt, c'est une dette. Dette, ok ? Donc, tu ne donnes pas la dîme sur une dette. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Tu donnes la dîme d'un revenu. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on parlera aussi des dettes. On va en parler dans ce cours puisqu'on va parler de finances. Et il y a des questions auxquelles on va répondre à l'avance. Et certainement que je vous laisserai un peu de temps pour les questions aussi parce qu'il y a toujours pas mal de questions à propos de ça. Donc, je vous ai montré que quand on a un revenu, en tant que chrétien né de nouveau, quel qu'il soit. Ça peut être un revenu d'un loyer, ça peut être d'un commerce, ça peut être d'un salaire, ça peut être différentes choses. Ce que tu touches dans ta poche, ton revenu, Dieu te montre une chose, dans sa parole, il y a une semence. Et je vous ai montré que la dernière fois, c'est un principe dans le naturel. Chaque plante, chaque arbre a une semence en elle-même. Chaque arbre a une semence en lui-même. Et c'est comme ça que Dieu multiplie les choses. Et la Bible ici va nous montrer les principes de la prospérité, mais avec des conditions. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'attitude du donneur. L'attitude du donneur. Regardons verset 7. Verset 7, l'attitude du donneur. Il est dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors là, c'est super important. C'est vraiment très important. Verset 7 de 2 Corinthiens 9. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'attitude du donneur est fondamentale. D'abord, Paul nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Regardons dans Romains 14, verset 23. Moi, j'aime bien ce verset parce que c'est un verset qui est puissant et qui est souvent très mal compris. 14, 23. Romains 14, 23. Bon, c'est dans un contexte un peu différent de la dîme, mais il s'applique à beaucoup de choses. Paul dit, « Or, tout ce qui ne résulte pas ou qui n'est pas le produit d'une conviction de la foi est péché. » Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Une conviction est péché. Rappelez-vous qu'une conviction, ce n'est pas quelque chose qui est dans ta tête. Une conviction, c'est quelque chose qui est spirituel, qui vient de l'esprit. Et péché ici, ça ne veut pas dire... Vous savez, on a souvent cet aspect du péché, du mal, faire le mal, une action qui est mal. Un mensonge, un vol, un adultère, corruption, ou ce que vous voulez. Bon, ça, c'est vrai que c'est le péché. C'est un aspect du péché. Mais un autre aspect du péché, c'est de manquer le but, je vous le rappelle. Vous vous rappelez de cette définition du péché. Manquer le but. Tout ce que tu fais pour Dieu, et ça, c'est une règle absolument générale qu'il faut s'imposer. Tout ce que tu fais pour Dieu doit être fait par conviction. Sinon, tu pèches dans le sens où tu passes à côté de ce pourquoi Dieu voulait que tu fasses ça. Donc ça veut dire que ça ne portera pas de fruits. Il y a des gens qui donnent leur dîme et ils s'appauvrissent, vous savez ça? Ah oui, je suis sérieux. Il y a des gens qui donnent leur dîme et qui s'appauvrissent. Et Dieu ne veut pas ça. Il y a des gens qui donnent leur dîme, et vous les voyez, des années plus tard, ils sont plus pauvres. Est-ce que vous pensez que là, il n'y a pas un problème quelque part? Soit Dieu est un menteur, ou soit il y a un problème avec la personne. Et Dieu n'est pas un menteur, nous le savons. Nous savons qu'il y a un problème avec la personne. Et souvent, c'est un problème d'attitude. C'est un problème d'attitude. Il y a des gens qui donnent leur dîme et ils s'appauvrissent. Ils ne s'en sortent pas à la fin du mois. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que donner sans conviction n'apportera strictement rien. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Vous savez, il y a des gens, ils entendent un bon sermon sur la dîme et les offrandes, et ils sont là, ils disent, oh, c'est vrai, j'ai volé le Seigneur. Donc maintenant, je vais payer ma dîme. Vous savez que cette expression payer ma dîme, je ne la supporte pas. Quand on commence à entendre parler de payer sa dîme, là, moi, j'ai un problème. Parce que payer, c'est quoi? Payer, c'est quelque chose que tu dois. Si tu dois payer quelque chose et que tu ne le payes pas, alors tu es en infraction, vous êtes d'accord? Payer une taxe, payer, je ne sais pas moi, un droit de passage, payer ce que vous voulez. Quand on paye, ça veut dire que nous devons quelque chose. Mais rappelez-vous que le seul commandement que nous avons, c'est d'abord d'aimer le Seigneur et de nous aimer les uns les autres. Et l'amour est un choix. L'amour est une relation. Avec Dieu, tu es dans une relation d'amour. Tu n'es pas dans une religion. Tu n'es pas dans une religion. Bien sûr, cette relation t'amène à te responsabiliser. Dans la dîme, et d'ailleurs comme dans tous les domaines de notre vie spirituelle, il y a un aspect de responsabilisation. Et être responsable, c'est un choix, c'est une marque de maturité. Ce n'est pas une obligation. Tu comprends que si tu donnes ta dîme, d'abord tu le fais parce que tu es convaincu
de la parole de Dieu.
Tu ne le fais pas parce que tu as entendu un sermon où on t'a dit « Vous me volez, dit Dieu, etc. » avec Malachie, un sermon condamnant. Quand les gens donnent après un sermon qui les a condamnés, je vais vous dire une chose, ils ne prospèrent pas. Ils s'appauvrissent. Ils s'appauvrissent. Ils deviennent plus pauvres. Et alors, après quelque temps, ils viennent voir le pasteur en disant « Pasteur, je ne comprends pas, j'ai donné ma dîme, mais j'en peux plus, j'y arrive plus. » Et le pasteur est embarrassé. Oui, ben c'est normal. S'il a semé la condamnation dans les prédications sur la dîme, il récolte des problèmes, un appauvrissement de son peuple. Et ça, c'est pas bon. Du tout, du tout, du tout, du tout. Quand on donne, on doit donner avec conviction. Tu donnes parce que tu aimes ton Seigneur. Tu donnes parce que tu as la joie de donner à ton Seigneur. Moi, je me souviens d'un frère qui me disait, avant d'avoir des enseignements sur la dîme, bon, je donnais parce que, bon, on me disait qu'il fallait donner la dîme. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils donnent parce qu'on leur dit qu'il faut donner la dîme. Le pasteur arrive avec des chaussures trouées et il dit qu'il faut donner la dîme. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les gens ont dit, oh, pauvre pasteur, il a une vieille chemise, il a des chaussures trouées, il faut l'aider. Non, 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 ça c'est tout faux. Ça c'est tout faux. Alors vraiment, une église qui réagit comme ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est vrai que des fois, le message n'est pas facile à donner. Mais c'est un message qui est biblique. Et ce frère me disait, maintenant j'ai appris à donner, et quand je donne, j'ai une joie à donner. J'ai une joie à donner. Et ça, c'est exactement la bonne attitude. C'est la bonne attitude de dire, je donne à mon Seigneur avec joie. Je donne parce que je suis convaincu, parce que je sais ce que je fais. Je donne pas parce que on m'a mis un marteau sur la tête ou une épée sur la tête, là, en me disant, si tu donnes pas, coupe. On va te couper. On va te trancher. Dieu est là, il est avec son bâton, et il regarde. Attention, là, quand le panier d'offrande passe, il est avec son bâton prêt à nous frapper. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui est comme ça. Ce que Dieu veut, c'est un peuple qui se responsabilise. Un peuple qui fait les choses avec conviction. Dieu n'est pas celui qui va te frapper si tu ne donnes pas ta dîme. Par contre, tu risques une chose, c'est de ne pas voir ce que Dieu veut faire pour toi. Comment Dieu veut te sortir d'un état difficile dans lequel tu es, ou même te protéger dans des moments où tu es, justement. Parce que vous savez, les attaques financières, ça existe aussi. Et des sérieuses. Le diable peut essayer de nous attaquer financièrement. Et il y a des fois des chrétiens qui sont là, qui se demandent pourquoi d'un seul coup tout est parti. Et ils se disent, mais tiens, pourquoi ça? Et une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons parfois, c'est qu'ils ont ouvert les portes au diable. Ah oui, une fois qu'ils ont tout perdu, ils disent, ah ben si j'avais su, j'aurais donné ma dîme. Ben oui, mais c'est trop tard. Parce que la dîme est une protection. Rappelez-vous ce que Malachie dit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est bizarre parce qu'en général, on n'entend jamais cette partie de sermon. On entend souvent, oui, les chrétiens sont des voleurs, ils ont volé à Dieu, ils auraient dû donner la dîme, etc. Et puis finalement, on n'entend jamais la partie, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Parce qu'il y a l'aspect de la protection, justement. Il y a l'aspect de la protection. On va aussi en parler de ces choses-là. Donc, l'attitude du donneur. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse. Ah, il y a des gens. Quand ils donnent, on dirait qu'ils arrachent la moitié de leur cœur. Oui, Seigneur, je te donne ce matin, Seigneur. Oh non, c'est grave. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu veux voir vraiment la bénédiction du Seigneur, arrête d'avoir une attitude comme ça. Change. Vraiment. Prends la résolution et dis, Seigneur, moi, je veux te donner avec joie. Je veux te donner sans tristesse. Ni contrainte. Alors la contrainte, faisons bien attention. Il y a vraiment différentes façons de se sentir contraint à donner. Ne donnez jamais sous l'impulsion d'une contrainte. C'est-à-dire quand on a commencé à vous donner certaines choses qui sont un peu ambiguës. Je vais vous expliquer. Faites attention à ça. Parce qu'il y a des gens, c'est triste à dire. Tiens à le dire, il y a des prédicateurs qui manipulent, qui cherchent à toucher la corde sensible des chrétiens et que les gens commencent un peu à dire « bon, il faut que je donne parce que sinon, les 1000 âmes dont il a parlé, qui vont se donner au Seigneur, ne pourront pas venir au Seigneur parce qu'il ne pourra pas partir prêcher l'évangile. » Enfin, des choses comme ça. Vous savez, des fois, il y a des gens qui mettent des pressions très sentimentales pour que des chrétiens donnent. Ne faites jamais ça. Ou des témoignages. J'ai donné ma voiture au Seigneur, elle était pourrie, et j'ai cru Dieu pour une voiture toute neuve, et j'ai une voiture toute neuve. Et des fois, Dieu fait des miracles comme ça parce que Dieu donne. Vraiment, dit à la personne, donne ta voiture là. Ou donne ça. Et c'est Dieu qui parle. Si Dieu vous parle pas d'une façon spéciale, donnez simplement votre dîme. C'est tout. Si par contre Dieu te parle d'une façon spéciale, en disant, ici il te dit voilà, donne ça, donne telle somme d'argent, ou donne telle chose à tel prédicateur ou à tel ministère, là obéis. Parce que là tu vas avoir une super abondance de bénédictions en retour. Mais il y a des gens, parfois ils lisent un livre et il y a un témoignage. Parce qu'en général dans les livres, il y a toujours les meilleurs témoignages. Mais il y a jamais les gens frustrés aussi. Vous avez jamais remarqué? Dans les livres, c'est, par exemple, on va prendre, il va y avoir sur 1000 personnes, une personne qui va vivre telle chose dans les finances, et c'est ce témoignage qu'on va mettre, c'est normal. Par contre, on vous dira pas qu'il y a peut-être 100 personnes qui ont fait la même chose et qui n'ont rien vu de la part du Seigneur parce qu'elles ont agi sous une impulsion charnelle. Et ça, on vous le dira pas. On a fait, je pense, certaines expériences, certains d'entre nous, dans ce domaine-là. On a essayé un peu d'imiter parce qu'on a entendu un témoignage. Et tu fais la chose par imitation. Mais dans l'imitation, je vous rappelle, il n'y a pas de foi. L'imitation n'amène pas la foi. Un bon témoignage peut nous bénir, mais ce n'est pas parce que tu vas faire la même chose que tu vas vivre la même chose. Et ça, il faut faire attention. Il y a des gens à qui Dieu a dit certaines choses, de donner certaines choses à des ministères. Ils l'ont fait et en retour, ils ont vu vraiment des choses extraordinaires se passer. Et ils témoignent. Et d'autres vont entendre ces témoignages, ils vont faire la même chose et c'est la catastrophe. Eh oui, il y avait un jour un étudiant d'une école biblique comme ça, il avait entendu un témoignage, il y avait un autre étudiant qui avait donné une voiture qui n'était pas en très bon état d'ailleurs, mais le Seigneur lui avait clairement dit, donne cette voiture. Il avait donné à quelqu'un qui vraiment avait un besoin important à ce moment-là, et quelques jours après, quelqu'un lui a donné une voiture toute neuve. Waouh, gloire à Dieu! Alors évidemment, vous pensez bien que l'étudiant a témoigné, et ça s'est su. Et puis, un autre étudiant a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, j'ai une voiture, je vais la donner. Comme ça, le Seigneur m'a vraiment donné une toute neuve. Ben, il a donné sa voiture et il a marché à pied jusqu'à la fin de ses études bibliques. Oui, vous voyez, ce genre de truc, l'impulsion charnelle. L'impulsion charnelle. Donc, ne vivez pas sur des impulsions charnelles. Même s'il y a de la foi, même si vous avez un très bon prédicateur et qu'il y a un certain nombre de témoignages, vivez avec vos convictions. Personnel. Ne vivez pas sur les témoignages des autres pour essayer de vivre les mêmes choses. Sinon, je vous garantis, vous aurez un bouillon, comme on dit en français, c'est-à-dire que ça va mal se passer. Ça se terminera mal, finalement. Vous donnez et nous donnons sous une conviction, non pas sous une impulsion charnelle. Pas de contraintes. S'il y a un prédicateur qui fait des contraintes pour donner, il ne faut pas. Il s'est vu dans certains endroits ou pour la guérison divine, pendant une période, il y avait des gens qui disaient, bon, ceux qui sont capables de donner 10 dollars, vous vous mettez sur cette file-là, je vais prier pour vous. Bon, les 50 dollars, là, ceux qui donnent 50 dollars, ils se mettent ici. Les 100 dollars, ici. Je prierai en premier pour les 100 dollars, hein, d'accord? Et ça, c'est vu, et ça, c'est perverti. Ces gens-là ont perdu leur ministère. Ça, c'est une perversion. Perversion. On manipule pas les gens comme ça. On ne manipule pas les gens comme ça. Il faut faire très attention. Avec les finances, il faut faire attention. Paul a toujours fait attention dans son ministère avec ça. Justement pour pas être un objet de blâme, il nous dira dans la première aux Corinthiens. Il a fait toujours attention à ça. Et il faut être clair, il y a un principe scripturaire. Il y a des gens qui disent, oui, Jésus a dit que ça se multipliera par 100 si vous donnez une semence, si vous croyez. Alors il y a des gens qui disent, ah, si je donne 1 dollar, je récupère 100 dollars. C'est pas mal. Bon, ben, je vais donner 100 dollars. Comme ça, 100 fois 100, ça fait 10 000, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Oui. Ou alors, non, je vais donner 1000 dollars. Comme ça, Dieu va me donner 100 000 dollars. Et il y a des gens qui prêchent à partir de ce genre de verset. Faisons attention. Parce que ça aussi, ce n'est pas scripturaire. Dieu n'a pas dit ça tel quel dans sa parole. Nous avons une semence, c'est vrai. Et la Bible parle d'une multiplication. Je vais vous montrer après différents types de prospérité. Parce que ça, on va le voir. Mais en attendant, on va regarder un certain nombre de choses. Donc, que chacun donne, attitude du donneur, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donnez toujours vos dîmes et des offrandes, quand vous avez à cœur de donner des offrandes, avec joie, avec foi, en considérant que c'est une semence. Dans cette semence, d'abord, c'est une semence pour le royaume de Dieu, nous le savons, parce que nous soutenons le royaume de Dieu à ce moment-là. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais c'est vrai aussi, et la Bible nous en parle, qu'il y a un retour pour nous. Verset 8, c'est la prospérité qui nous est ouverte. Et Dieu, si je comprends que ce que je donne au Seigneur, c'est une semence. Si je donne dans la bonne attitude scripturaire, comprenant mes responsabilités, alors la Bible nous dit « et Dieu ». Mais le « et » implique que d'abord, j'ai pratiqué le verset 6 et le verset 7. Vous voyez ? Parce que les gens, pour demander, je vous dis, des choses matérielles à Dieu, il y a beaucoup de gens qui demandent des choses matérielles à Dieu. Par contre, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Et ils ne donnent pas dans la bonne attitude. Bon, alors ils entendent un message, ils donnent comme ça à droite à gauche, mais c'est pas clair. C'est pas clair. On va parler de beaucoup de choses dans ce cours. On parlera des dettes, on parlera de la gestion des finances, on va parler de différentes choses. Parce qu'il y a vraiment des gens, parfois, ils n'arrivent pas à prospérer parce qu'ils font des erreurs évidentes. Des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens aussi, par exemple. Ils sont là, ils prennent des dettes partout, ils font pas gaffe, et puis au bout d'un moment, ils se retrouvent avec tellement de dettes, alors qu'ils avaient des revenus tout à fait conséquents, et s'ils avaient eu une certaine patience, ils auraient pu largement s'en sortir et vraiment bien prospérer. Mais ils ont tout mis par terre parce qu'ils ont contracté des dettes partout. Et on les cherche d'ailleurs un peu partout. Il y a même certains prédicateurs, je vous le dis, certains prédicateurs qui sont obligés de fuir certains endroits du monde parce qu'ils sont recherchés, parce qu'ils ont des dettes. Eh oui, ça arrive. Parce qu'ils veulent avoir tel type de voiture, parce que si, parce que ça. Et il faut être prudent avec ça. Et il y a des chrétiens qui ont beaucoup de problèmes avec des dettes et qui se retrouvent des fois en prison. « Seigneur, pourquoi tu as fait ça ?»« Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi qui as fait ça. Bah, » il faut être clair. Une dette, c'est pas le Seigneur. Tu prends pas une dette au nom de Jésus, me semble-t-il. Hein. Non. Donc parfois, on se retrouve avec des problèmes parce que on fait des gaffes, on fait des erreurs et qui nous coûtent cher. Et il y a des gens qui se retrouvent vraiment complètement dans un tourbillon où finalement, ils ont pris tellement de dettes qu'ils se retrouvent bloqués. Bon. Donc, et Dieu a le pouvoir de vous combler. Alors, je vous rappelle que combler, c'est pas donner un petit peu. Être comblé, ça veut dire être bien, largement bien. Quand tu dis « je suis comblé dans une situation », ça veut dire « j'ai largement tout ce qu'il me faut ». C'est pas être juste, c'est pas être dans le désert. Hein, je vous rappelle que l'image du désert pour les Israélites, c'est avoir au jour le jour, être tout juste. Hein, le désert, c'était « j'ai pour aujourd'hui, mais demain, je sais pas ». Demain, il faudra que je ramasse encore la manne. Mais la manne sera valable seulement pour une journée, sauf pendant le sabbat où je ramassais pour 2 jours. La mentalité du désert, c'est ça. J'ai tout juste. Je peux rien faire. Je ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Et Dieu ne nous appelle pas à ça, je vous le rappelle. Il nous appelle à être comblés. À être comblés. Il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces, je vous rappelle que c'est des faveurs imméritées. Donc, tu vas t'apercevoir que d'un seul coup, il y a des choses qui vont tomber à droite et à gauche que tu n'attends pas. Des suppléments. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un budget un peu juste, donné au Seigneur régulièrement, et il y a des mois où le début du mois s'annonçait très mal. Et puis finalement, à la fin du mois, vous vous retrouvez, non, ça va, tout va bien, pourquoi ? Parce que d'un seul coup, vous avez eu des rentrées inattendues. Pourquoi ? Parce que vous avez obéi au Seigneur. Si vous avez des sorties et trop souvent inattendues, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et qu'il y a un problème quelque part. Il y a un temps de restauration dans les finances, qu'on soit bien d'accord, pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui commencent très très bas. Et il y a un temps de restauration. Mais en mettant en pratique ces principes, c'est là où on peut commencer à voir ces choses. Toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards. Moi j'aime trop le toujours à tous égards. Donc, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et Dieu ne dit pas à certains de vos besoins. Ou à un peu de vos besoins. Ou à quelques-uns de vos besoins, mais tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que vraiment, si on pratique versets 6 et 7, le verset 8, normalement, c'est la conséquence. C'est clair. Si je pratique 6 et 7, le verset 8, c'est une promesse. Verset 6 nous dit, donnez une semence. Ok, je donne ma dîme et je donne des offrandes quand vraiment j'ai à cœur de faire ça. Je donne avec l'attitude du royaume. La bonne attitude du royaume. Et verset 8, c'est la conséquence, c'est ma promesse, c'est mon attente. J'ai le droit à ça. Tu as le droit à ça. Tu sèmes ta dîme, tu dis à ton Père Céleste, « Père, tu vois, moi j'obéis à ta parole, je sais que tu peux me combler pleinement de toutes sortes de choses. Tu peux me donner surnaturellement des choses. Et Dieu viendra te les donner par les mains d'autres hommes. Sache-le. Sache que Dieu utilisera la main d'autres hommes. Dieu utilise les mains des autres hommes pour nous donner. Regardez ce principe, Luc 6, 38. Luc 6, 38. Luc 6, verset 38. Il est dit « Donnez et il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Alors il y a des gens vraiment, moi il y a des chrétiens que je vois, ils sont extra. De ce côté-là, ils ont vraiment ce cœur. Et c'est étonnant parce qu'ils donnent et constamment ils reçoivent. Il y a vraiment un principe ici. Il y a vraiment un principe. Un principe, je crois, qui est à exploiter, non pas en vue de la convoitise, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des gens, ils disent, je vais donner et on va me donner. Non. Apprends à semer là où tu dois semer, là où tu as à cœur. C'est sûr que tu ne peux pas donner à tous les pauvres du coin, sinon tu vas t'appauvrir. Ça, c'est clair. Et au bout d'un moment, tu n'auras plus rien. Moi, je connais quelqu'un comme ça. C'était quelqu'un qui était commerçant et qui vivait très bien, qui a tout perdu parce qu'il donnait n'importe comment. N'importe qui venait le voir, il donnait. Il faisait même des dettes pour donner aux autres. Et il s'est retrouvé dans une situation catastrophique et il s'est fait mettre en prison. Il a tout perdu. Tout perdu. Et malheureusement, il avait aussi emprunté à des chrétiens. Il avait emprunté à des chrétiens et il a tout perdu. Et ces chrétiens-là, d'ailleurs, se sont retournés contre lui, ce que d'ailleurs, il ne faut jamais faire. Je vous le dis en passant, ce n'est pas aux tribunaux de régler les litiges entre chrétiens. Ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas à des païens de trancher entre deux chrétiens. Si tu as prêté de l'argent et que tu perds cet argent, tant pis pour toi. Il faut être clair. Ah, il faut être clair. C'est pour ça qu'il faut être sage. Moi, je pense, je vais faire une petite parenthèse, mais je pense personnellement, pour éviter les histoires, parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre les chrétiens à cause de l'argent. Vous avez remarqué ça, non? Hein, ça crée beaucoup d'histoires. Le meilleur moyen, c'est de faire la chose suivante. Éviter de prêter et donner. Tu donnes une partie de ce que la personne désire. Si tu as la capacité, tu dis, écoute, tiens, voilà. Si la personne dit, est-ce que tu peux pas me prêter 1 million? Je te le rends le mois prochain. C'est sûr, j'ai une très bonne affaire. Alors, je vais vous dire le schéma de la très bonne affaire. Bon, vous prêtez 1 million. Très bien, tout va bien. Vous avez une très bonne relation avec la personne jusqu'au moment où vous lui prêtez 1 million. Très bonne relation. Vous lui prêtez 1 million. OK, ça va. La personne va, elle se débrouille. Elle commence à faire sa superbe affaire et 99% du temps, sa superbe affaire va tourner en mauvaise affaire. Ou alors, il y a une partie qu'il ne va pas utiliser pour l'affaire pour laquelle il vous a emprunté de l'argent, mais qu'il utilisera pour un autre besoin. Donc évidemment, cet argent sera moins productif que ce qui était prévu au départ. Mais ça, vous ne le saurez qu'après. Vous connaissez toujours la vraie histoire après. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, les premières fois, « Oh, comment ça va, frère ? Oh oui, tout va très bien, etc. » Première semaine. La deuxième semaine, ça va plus très bien, ça va bien. C'est plus très bien, mais ça va bien. La troisième semaine, d'habitude, cette personne, ce frère, cette sœur s'asseyait toujours à côté de vous. Là, je ne sais pas pourquoi, elle a d'un seul coup dévié et elle s'est mise complètement à l'autre bout de la salle de l'église. Vous ne savez pas pourquoi toujours, d'accord? Puis, les fois d'après, vous commencez à ne plus la voir à l'église. Et vous commencez à lui téléphoner, tiens, frère ou sœur, on te voit plus trop, etc. Et tout de suite, la personne sait que si vous avez un intérêt de la rechercher, c'est qu'il y a eu un lien entre vous qui s'appelle un crédit. Et puis, au bout d'un certain temps, bon, la personne vous dit « Non, tu sais, je suis très occupé en ce moment. Ouh, ça me demande beaucoup d'efforts, tout ça. Ça va bien, ton commerce, ton histoire, là ?»« Oui, tout marche très bien. En fait, ça marche pas du tout. Il est en train de tout perdre. » Et après, vous ne la voyez plus à l'église. Et puis finalement, si vous marchez dans la rue et qu'elle vous voit de loin, d'un seul coup, elle a cette subite envie de tourner à gauche ou à droite très rapidement pour vous éviter. Et les relations sont complètement pourries. Et c'est misérable. C'est misérable. Il est mieux de donner une partie. Si vous avez la capacité de prêter 1 million, bah vous lui donnez 1 000 francs. Il dit voilà, au moins ça sera quelque chose pour toi. Ces 1 000 francs, je te les donne. Comme ça, on sera toujours de bons amis. Vous lui dites pas, mais c'est la parenthèse. Et vous êtes tranquille. Et ça sera toujours des bons amis. La personne ne sera pas frustrée parce qu'elle n'aura pas été déçue que vous ne faites rien pour lui parce que vous êtes quelqu'un, un bon ami et que normalement, bon, on est là quand même pour essayer de s'aider, etc. Ce qui est normal. Mais comme ça, il n'y aura pas de frustration. Vous lui avez fait un don. Si elle a tout perdu, c'était à elle, c'était son argent. Vous lui avez donné, mais c'était son argent. Donc ça va. Tout va bien, entre guillemets. Bon. Mais au moins, ça ne froissera pas vos relations. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de relations. Il y a même des églises qui ont été divisées à cause de ça. Parce que les gens commençaient à se monter les uns contre les autres parce qu'il y avait des problèmes de dette entre les chrétiens. Et il vaut mieux éviter ça. Personnellement, vraiment, si quelqu'un veut emprunter des sommes d'argent conséquentes, il y a des établissements financiers. Et c'est mieux. Qu'ils aillent voir ces établissements financiers, parce que ces établissements financiers mettront une certaine pression sur la personne. D'obligation, de remboursement. Il y a des garanties, il y a un certain nombre de choses. Même si ici, les taux d'intérêt sont horriblement, extrêmement, d'une façon honteuse, trop élevés, nous le savons. Mais au moins, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas de lien entre vous et ce frère ou cette sœur. Et vraiment, l'argent crée des histoires et des histoires à n'en plus finir. Les gens quittent les églises à cause de dettes qu'ils ne remboursent pas. Il y a des disputes entre les gens. Il y a même des gens qui vont vers les tribunaux, vers la police, entre chrétiens, pour se mettre devant les tribunaux. Et ça, ce n'est pas juste devant le Seigneur. Je vous le dis, ce n'est pas juste. Si tu as prêté de l'argent et que la personne a perdu ton argent, tant pis pour toi. Ça, il faut être clair. En tant que chrétien, il faut être clair. Donc le mieux, c'est d'éviter ce genre de choses. Si c'est des grosses sommes, envoyez-les vers des établissements bancaires, c'est beaucoup mieux. Oui, mais j'ai pas les garanties. Ok, si t'as pas les garanties, ça veut dire que bon, le million ou les 10 millions que tu veux emprunter, c'est un risque et c'est même un risque pour la vie de la personne. C'est un risque. Si une personne n'a pas une certaine capacité financière, si elle a d'un seul coup un prêt de 10 millions, déjà si elle n'a pas une certaine capacité financière, c'est qu'elle n'a pas bien produit quelque chose dans sa vie, donc il y a un problème quelque part souvent. Soyons clairs. D'ailleurs, une banque, vous savez, les banques, ils raisonnent d'une façon très simple en général. Ils vous demandent d'abord combien vous avez d'apport personnel. Ils vous prêteront pas 10 millions comme ça si vous avez un franc sur votre compte en banque et que tous les mois, il y a un franc ou deux francs qui rentrent sur votre compte en banque. Et c'est normal. C'est normal. Ça voudra dire que vous n'avez pas de revenus. Oui, mais j'ai un truc super, tout va très bien marcher. Oui, avec tous les risques que ça comporte. Une banque calcule les risques. Une banque, un établissement financier fait attention. Ils ont des statistiques, ils ont tout un tas de trucs maintenant, des simulations financières pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que s'ils font n'importe quoi, on a été témoin ici de prêts bancaires faits par des copains des associés et qui ont fait couler des banques privées ici, sous le dos de certaines personnes, par mauvaise gestion. Une banque, normalement, ne perd pas d'argent. Pourquoi? Parce que elle sait, elle connaît, ils ont fait des calculs, ils ont regardé les risques, ils savent qu'il y a un certain pourcentage, ils savent qu'il faut faire un certain nombre de choses, demander un certain nombre de garanties. Donc, les prêts entre chrétiens, franchement, s'il vous plaît, évitez, ça vous évitera bien des problèmes. Mais ce n'était qu'une parenthèse que nous devons faire absolument dans ce cours sur les finances. Donc, l'attente du donneur, c'est vraiment savoir qu'il va recevoir quelque chose en retour. Mais cette chose, je dirais, ce retour ne doit pas être l'objet de ses dons. Et c'est là où il y a certains enseignements avec lesquels vraiment je ne suis pas d'accord, où on dit, voilà, vous donnez, donc il vous sera donné. Donc, en fait, on focalise les gens sur qu'est-ce qu'ils vont avoir? Je donne parce que je vais avoir quelque chose finalement. Et ça, c'est une satisfaction de la convoitise. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'accepte pas. Je donne parce que j'aime mon Seigneur. Ça, c'est numéro un. Parce que je veux financer l'Évangile. Mais je sais aussi que mon Seigneur en retour, c'est un Dieu qui est bon. C'est un bon Père. Et je sais qu'en retour, il me promet sa prospérité. Il me promet sa bénédiction. Donc, c'est clair, Dieu nous promet sa bénédiction. Dieu nous promet sa bénédiction, mais ne jouons pas à « Seigneur, je t'ai donné, donc tu dois me donner. » Et ça, il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a des messages qui portent là-dessus. Et vraiment ça, je vous dis, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je n'accepte pas ce genre de message parce que ça met les chrétiens devant une convoitise finalement, où finalement, ils ne donnent plus par relation, mais ils donnent par convoitise pour essayer de retirer quelque chose. Et ça, ce n'est pas juste. La Bible nous fait des promesses que nous pouvons proclamer, c'est normal. Dans Philippiens chapitre 4, il y a des promesses et des bonnes promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour que Christ soit glorifié. Donc ça, ce sont des promesses. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il y a des gens qui ont commencé comme ça leur prospérité, en lisant Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Et des gens qui ont prié honnêtement. Si vous vous décidez pour l'obéissance, obéissance en premier, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, 19. Si vous vous décidez pour l'obéissance, c'est-à-dire si vous avez un cœur obéissant, un cœur qui désire, un cœur qui dit « Oui, Seigneur, je veux t'obéir, quoi qu'il m'en coûte, peu importe. » Alors, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que Dieu nous promet dans sa parole. Et il y a des frères et sœurs comme ça qui étaient dans une extrême pauvreté et qui ont dit, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je mange vraiment pas les meilleures productions du pays. Je mange la poussière, la soupe aux cailloux, entre guillemets, le pain rassis. Et encore, quand il y a du pain. Le thé sans sucre. Le manioc sans kalanga. Le bougari sans sauce. Soyons clairs. Mais quand tu te mets devant ton Père Céleste en disant, Père, vraiment, c'est pas digne d'un enfant du roi. Parce que tu dis dans ta parole. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que je mangerai les meilleures productions du pays. Quand vraiment tu as ce cœur et tu dis, Seigneur, je vais me consacrer. Moi, je vais te donner, Seigneur. Si c'est même commencer par 10 francs ou 5 francs, je vais te les donner, Seigneur. Et il y a des gens qui ont commencé comme ça. Et qui aujourd'hui sont bien dans leur vie. Ils sont pourvus, complètement pourvus. Le problème, c'est de commencer là où tu es. Là où tu es, avec foi, avec joie, en semant. Vous savez, certains parmi nous, on a reçu de l'éducation. Pourquoi on a reçu de l'éducation? Parce que nos parents ont pu nous payer l'éducation. Et d'autres parmi nous, ben, on n'a pas eu quasiment d'éducation. Pourquoi? Parce que nos parents ne pouvaient pas nous payer l'éducation. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Par contre, les choses peuvent changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut et ça doit changer. À partir du moment où nous voulons pratiquer certains principes. Malachi nous fait des promesses aussi. Malachi nous fait d'excellentes promesses dans Malachi 3. Ça, c'est ce à quoi je peux m'attendre. Dieu dit au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, à l'examen, à prouver ma parole, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » On parlera de cet aspect d'au-delà de toute mesure. Ça, ce sont les promesses de la parole de Dieu. Donc la parole est claire. Si moi j'obéis avec les conditions de l'écriture, avec le cœur que Dieu attend de ma part, alors Dieu va me faire prospérer. Dieu promet de pourvoir à mes besoins. Comment il va le faire? Oui, j'ai pas de boulot, comment il va le faire? Il est tout puissant pour te donner un boulot, ça y a aucun problème. Il est tout puissant aussi pour te soutenir surnaturellement pendant un temps, ça durera un temps. Si tu mets en pratique sa parole. Mais Dieu nous demande d'abord la pratique de sa parole. C'est toujours le même principe dans la foi. D'abord, je crois, j'obéis. Je confesse. Parce que ça, c'est des versets à confesser. S'il y a du manque, commence à confesser ces versets. Mais seulement si tu obéis. Parce que confesser sans obéir, ça ne sert à rien. La foi sans action est morte, je vous le rappelle. Vous avez eu des cours sur la foi. Et dans les finances, il y a une obéissance que Dieu nous demande. Si on veut voir sa bénédiction et si on comprend notre responsabilité, si on ne veut pas jouer le jeu du diable. Jouer le jeu du diable, c'est de retenir les finances du royaume et c'est de retenir notre prospérité. C'est dommage parce qu'on en souffre et on en fait souffrir le royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut que son corps soit un corps prospère. Dieu ne veut pas de pauvres parmi nous. S'il y a des pauvres, ça ne doit être que pour un temps. Et ces pauvres doivent mettre en pratique la parole de Dieu et après ils deviennent prospères. Et après d'autres pauvres rentrent et se convertissent et les plus riches aident, l'Église aide les plus pauvres. Et après, ces pauvres-là sortent de la pauvreté et la chaîne continue. Sinon, nous faisons des églises qui sont remplies de pauvres et qui restent pauvres. Et à ce moment-là, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises, malheureusement. Et Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas sa volonté pour nous. Sa volonté pour son Église, c'est pas que les pauvres restent pauvres, mais c'est que les pauvres prospèrent, que les pauvres soient pourvus. Et que quand il y a des gens qui se convertissent, certains parmi eux seront pauvres. Ils doivent sortir de la pauvreté. Ils peuvent sortir de la pauvreté s'ils pratiquent les principes de la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est important à comprendre, à saisir. Parce que vous savez, le manque de finances, ça bloque l'avancement du royaume de Dieu. Et ça rend malheureux les chrétiens. Les chrétiens qui sont dans la pauvreté, ils sont pas heureux. On les voit, ils viennent à l'église, ils sont marqués, ça se voit.
Ils ont les yeux tout rouges. On voit qu'ils sont mal nourris. Leurs enfants sont tout le temps malades. C'est grave. Et ça fait mal au cœur. Et de toute façon, la pauvreté est une mentalité. La pauvreté est une mentalité. Quand quelqu'un sort de cette mentalité, commence à renouveler ses façons de penser. Vous vous rappelez des cours sur l'homme en trois dimensions. On parlait du renouvellement de l'intelligence, de nos façons de penser. Il y a bien un domaine où les chrétiens doivent renouveler leur façon de penser, c'est sur les finances. Quand les gens restent avec une mentalité de pauvre, il y a un grand prédicateur qui a dit la chose suivante. Il a dit, il y a beaucoup de mouvements mondiaux actuellement qui parlent des richesses, les pays du Nord, les pays du Sud, etc., etc., etc. Moi, personnellement, je ne crois pas dans ce genre de choses. Parce que je crois dans l'évangile de Christ qui amènera un changement dans les nations les plus pauvres si l'évangile est reçu en masse et que les chrétiens pratiquent la parole de Dieu. Ça, j'y crois pas. Je crois au développement, oui, mais pas au développement avec l'injustice. Personnellement, j'y crois pas. Je crois au développement seulement si les chrétiens se donnent dans le domaine des finances. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois personnellement. Je crois à des choses surnaturelles que Dieu veut donner à des chrétiens. Une sagesse surnaturelle, des idées qui viennent de Dieu pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place et qui bouleversent l'économie des nations. Ça, j'y crois. Parce que ça, c'est un principe scripturaire. Par contre, un serviteur de Dieu qui a dit la chose suivante. Il a dit oui, il y a des mouvements qui disent qu'il faudrait qu'on prenne toutes les richesses du monde et qu'on les distribue à chacun en particulier. Et ça ferait un système égalitaire dans le monde entier. Et ce prédicateur a dit la chose suivante. Si on fait ça, on pourrait attendre quelques mois ou quelques années. Tous ceux qui ont l'habitude de manipuler les richesses redeviendraient riches et les pauvres deviendraient pauvres. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez donner un montant important à quelqu'un qui a une mentalité de pauvre, je peux vous dire une chose, il perdra tout. Il perdra tout. Il perdra tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne saura pas manager cet argent. Il perdra tout et il redeviendra pauvre. Ça, c'est courant. C'est très courant. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce principe que la pauvreté est une mentalité. La pauvreté n'est pas un état de fait. La pauvreté est une mentalité. Quand quelqu'un commence à dire « je refuse » cet état de pauvreté parce que je suis un enfant du roi des rois, déjà il fait une étape. Il prend une étape dans sa vie. Et il dit « non, moi je vais étudier la parole de Dieu et je veux pratiquer les principes de la parole de Dieu. » Si cette personne fait ça, elle fait déjà un grand pas. Ce n'est pas le seul pas à faire. Parce que nous verrons qu'il y a des choses vraiment dommages qui empêchent certains chrétiens de prospérer, et ça se voit d'ailleurs. Ça se voit très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais vous montrer dans l'Écriture maintenant, c'est trois types d'interventions divines dans nos finances. On parlera aussi d'autres sujets. Il y a plein de sujets qu'on va aborder. Trois types d'interventions divines dans nos finances. Trois types d'interventions divines dans nos finances qu'on va remarquer dans l'Écriture. Alors, la première, c'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent, c'est-à-dire tu prospères et tu continues de prospérer, c'est-à-dire que tu obéis régulièrement à la parole de Dieu et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tu prospères, tu avances. Et ça, c'est la conséquence d'un attachement à Dieu. Le fait que tu te rapproches de plus en plus du Seigneur, que tu obéisses de plus en plus à la parole de Dieu, tu connais le message de la prospérité, etc. Tu donnes ta dîme régulièrement et ce sont des choses régulières. Tu as une prospérité qui est là, tu crois dans la prospérité, tu confesses ta prospérité et tu vois régulièrement ta vie financière augmenter. Si tu fais des statistiques sur ce que tu avais reçu, que tu avais produit l'année d'avant, ou 2 ans auparavant, etc., tu fais une courbe, cette courbe est toujours ascendante. Ça, c'est une prospérité régulière. Et rappelez-vous d'une chose, il y a une différence entre un miracle et une bénédiction. Un miracle, c'est on a besoin d'un temps de crise, et une bénédiction, c'est quelque chose qui coule régulièrement. Parce que là aussi, il faut faire attention. Alors, je peux faire une petite parenthèse aussi là-dessus. Il y a certains parmi vous, vous êtes businessman, vous êtes commerçant, et votre prospérité, elle dépend d'un certain nombre de moments dans l'année, en quelque sorte. Et là, faut être sage avec ça. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, voient la bénédiction de Dieu couler, mais au bout d'un moment, ils gâchent leur bénédiction. Par exemple, si tu es un businessman, tu es businessman,
Bon, il y a des moments où tu investis beaucoup et il y a un moment où tu récoltes beaucoup, c'est normal. Mais entre-temps, il y a une sagesse à avoir pour un management. Quand tu as un salaire qui est là, tu marches de gloire en gloire. Il y a 5 ans, tu avais tel boulot avec tel salaire. Ensuite, tu as mis en pratique la parole de Dieu. Puis, tu as eu des promotions et tu marches de promotion en promotion. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est une bonne chose. Et tu es pourvu de plus en plus et tu montes et tu grimpes et tu grimpes et tu grimpes. Bon, quand tu es businessman ou commerçant, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des moments où vraiment, tu fais des gros coups qui t'amènent une certaine abondance d'argent. Mais il va falloir que tu vives là-dessus. Et donc, il va falloir une sagesse dans le management. Parce que quand quelqu'un reçoit un salaire, bon, il dit voilà, j'ai tant de salaire, donc dans ce salaire, je dois payer mon loyer, je dois payer ça, j'ai tel frais, je sais que j'ai l'entretien pour ma voiture, je sais, bon, etc. On peut budgétiser ça, etc. Bon, c'est quelque chose qui est un management, je dirais, assez régulier, etc. Bon, quand on est dans le business, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et pourtant, c'est une prospérité qui est régulière. C'est sur une année où tu vois combien tu as ramené, combien tu as produit. Et c'est là où tu vois ta prospérité. Bon. Deuxième type d'intervention divine, c'est le miracle en temps de crise. Le miracle en temps de crise. Là, on a des exemples. Dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Là, il y a une femme qui était veuve. Son mari était prophète et il est décédé. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Une femme, parmi celles des fils des prophètes, cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » C'était la loi de Moïse, d'ailleurs, ça. Élisée lui dit, verset 2, « Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Et elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, et tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Ça, c'est un miracle en temps de crise. Cette femme va obéir à la parole du prophète. Mais cette femme est dans une crise terrible. Si Dieu n'intervient pas, qu'est-ce qui se passera pour elle ? Ben, ses enfants sont pris comme esclaves. Ses enfants sont pris comme esclaves. Et là, elle va recevoir une parole au travers d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Cette femme va obéir. Il y a tout un principe ici pour ce miracle financier. Parce que c'est un miracle financier qu'elle a vu, qu'elle a vécu. Un miracle de provision. Dieu a agi surnaturellement. Il a créé de l'huile. Mais remarquez une chose, il y a eu d'abord quelque chose, une semence pour ce miracle. Le prophète lui dit, bon, va chercher des récipients, mais d'abord, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Et cette femme ne savait pas pourquoi, en fait, le prophète lui demandait ça. Cette femme ne savait pas. Elle ne le savait pas. On verra, parce que là, notre temps va se terminer, mais on verra la prochaine fois qu'il y a une femme très pauvre qui a été obligée de donner ce qu'elle avait à un serviteur de Dieu pour que son miracle se produise. Là, cette femme, elle n'avait qu'une chose, un peu d'huile. Et Élisée lui dit, va chercher tous les récipients là, tout ce que tu peux trouver. Élisée lui dit pas pourquoi. Seulement après, il va lui dire, mais cette femme va obéir inconditionnellement. Et elle va mettre en action son miracle par sa foi, dans l'obéissance à cette parole. Mais là, c'est un miracle, une intervention divine dans un moment de crise. Cette femme a revendu l'huile et elle est sortie de sa dette surnaturellement. Surnaturellement. Dieu, parfois, peut nous faire sortir avec notre foi surnaturellement de dette. Il ne faut pas jouer à ça non plus. Là, cette femme était désespérée.
et cette femme va vivre son miracle. Mais ça, ça va pas être une prospérité. Vous êtes d'accord? Ça, ça va combler un trou. C'est un miracle financier. C'est un miracle financier qui comble un trou. Et si ce trou n'avait pas été comblé, ça aurait été une catastrophe. Donc ça va être un miracle financier que Dieu va faire pour que cette veuve puisse sortir d'une situation catastrophique. Et Dieu est le Dieu qui fait des miracles comme ça. Dans des situations extrêmement difficiles. Il y a un prédicateur qui s'appelle Shambach, un Américain, qui a écrit un livre là-dessus sur ce genre de miracle. Et franchement, il y a des choses absolument étonnantes que Dieu a faites dans le corps de Christ, de gens qui étaient dans des situations désespérées, et Dieu les a fait sortir. Ils ont reçu des dons d'une façon miraculeuse. Et parfois, on doit provoquer la foi des gens en leur disant « Donnez ce que vous avez ce matin, mais j'ai quasiment rien. J'ai juste ça. » Et une personne donne à ce moment-là au Seigneur ce qu'elle a, et elle voit son miracle. Dieu peut intervenir d'une façon miraculeuse. Mais ça, c'est pas la prospérité. Parce que cette femme, après, elle était toujours sans revenu. Elle avait toujours pas de revenu. C'est vrai qu'elle est sortie d'un mauvais pas, mais c'est pas ça qui l'a établie dans une prospérité. Bon, on étudiera d'autres cas, parce qu'il y a vraiment des cas dans l'Écriture qui vont nous intéresser, et je vais vous montrer comment Dieu peut intervenir dans différents domaines de nos finances.